le rendez-vous de l'actu.
Choisir les essences et respecter les équilibres, notamment pour capter les polluants et éviter les allergies tout en préservant les espèces, voici un enjeu majeur pour nos villes. Les explications de Frédéric Ségur, responsable de l'unité Arbres et Paysages pour la métropole de Lyon, à l'occasion de la table ronde sur la biodiversité et la qualité de l'air organisée par l'INSET Montpellier et la délégation Lyon-Rhône-Alpes.
La solution, c'est souvent d'aller vers des formes et des plantations qui soient le plus diversifiées possible. Aujourd'hui, effectivement, il y a une demande sociale très forte pour la nature en ville, que ce soit pour l'acceptation de la ville dense, que ce soit pour le ressenti qu'on a par rapport aux canicules estivales. Et on considère que ce retour de la nature en ville, c'est véritablement un facteur de résilience pour la ville. Cette résilience, elle s'appuie sur la question des services écosystémiques. C'est une véritable redécouverte parce qu'au XIXe siècle, quand on a créé les villes modernes dans lesquelles on habite, on parle souvent des efforts d'embellissement du XIXe siècle, mais ça allait beaucoup plus loin parce qu'il y avait véritablement dans l'argumentaire de réintroduire de manière massive des arbres, des parcs, des promenades dans les villes. On voit déjà dans le vocabulaire, on parle d'action sur la santé et le bien-être, on parle d'action sur améliorer l'air vicié des villes. Donc la question de la qualité de l'air, elle est déjà exprimée dans la volonté de planter la ville. On parle de l'ombrage. Toutes ces questions-là, en fait, sont développées et sont l'argumentaire de base. Sauf qu'à l'époque, on est sur des intuitions. Depuis une cinquantaine d'années, il y a eu une multiplication d'études et de recherches scientifiques dans tous les grands pays développés. Et toutes ces recherches ont montré que ces intuitions, qu'elles se traduisaient par des résultats scientifiques qui donnaient raison à cette intuition, notamment sur des entrées sur la question de la santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, que ce soit sur la lutte contre l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, la gestion du cycle de l'eau en ville, la dépollution. Il y a plein de services qui peuvent être rendus par la nature. Les végétaux, notamment les arbres, peuvent dépolluer de manière assez importante. On estime qu'un arbre mature, il peut fixer sur une année 20 kg de particules fines. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable en ville. Ça dépend de sa surface foliaire. Il faut savoir qu'un grand platane, si on met toutes ses feuilles bout à bout, ça peut correspondre pratiquement à 5000 m², pratiquement à la superficie d'un terrain de football, qui est la surface foliaire d'un seul arbre mature. Donc effectivement, ça permet de capter énormément de polluants. Mais comme on l'a dit, à côté de ces services, il y a des disservices. On a parlé des pollens. On n'a pas parlé de la production de ce qu'on appelle les COV, les composés organiques volatiles, qui sont des molécules qui sont précurseurs de la fabrication de l'ozone. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu paradoxal. C'est que d'un côté, l'arbre va dépolluer en absorbant de l'ozone et en détruisant un certain nombre de composés organiques volatiles qui sont à l'origine de la fabrication de l'ozone, mais pour des mécanismes qui sont pour lui de protection, notamment contre les sécheresses, un certain nombre d'espèces vont produire des quantités qui ne sont pas négligeables de composés organiques volatiles qui peuvent eux-mêmes être à l'origine de fabrication d'ozone. Alors, il ne faut pas se tromper de cible. Le rôle dépolluant de l'arbre est dans toutes les études largement supérieur à sa production de polluants. Et comme on l'a dit, c'est quand même la pollution de la circulation qui est quand même le facteur qu'il faut combattre. Alors, si on applique ces réflexions à l'échelle du patrimoine d'une métropole, donc la métropole de Lyon s'occupe notamment des arbres qui sont sur les espaces publics, qu'on appelle classiquement les arbres d'alignement, voilà ce que ça peut donner, par exemple, par rapport au risque allergique. On s'aperçoit qu'on a des essences très allergènes qui sont utilisées, d'autres moins, d'autres sur lesquelles on manque de données pour l'instant. On a un travail en cours avec le RNSA pour essayer justement de renseigner une connaissance qu'on peut avoir sur le risque allergénique d'un certain nombre d'espèces qu'on utilise. Aujourd'hui, en ville, on utilise près de 300 espèces et variétés différentes d'arbres. Donc, on n'a pas forcément des données sur tous ces arbres. La grosse difficulté, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur des cycles très longs. Vous voyez le platane, il y a encore 20 000 platanes sur les espaces publics de la métropole. Beaucoup d'entre eux ont été plantés au 19e siècle. Donc on ne peut pas, même si aujourd'hui on a une politique de diversification, on ne peut pas en quelques années changer complètement la donne. Et si on coupait les platanes, on aurait beaucoup plus de disservices par le fait qu'on n'a plus de rafraîchissement, qu'on n'a plus d'autres facteurs positifs. Et donc on est sur une réflexion qui doit nécessairement être sur le temps long. Alors, on a fait la même chose sur les COV. Alors, le platane, il n'a pas de chance, qu'il ait produit beaucoup de COV. Il a produit beaucoup de problèmes d'irritation et d'allergie. Mais effectivement, ça a été l'arbre symbole effectivement des plantations du 19e siècle. Là, on a vu deux facteurs, le facteur de production de COV, le facteur de pollinisation. Mais le choix des essences, il repose sur beaucoup d'autres critères. Là, j'ai fait des analyses multicritères sur les qualités des essences avec une dizaine de critères, mais on pourrait en rajouter 4 ou 5 encore. On a des critères d'adaptation au sol, d'adaptation au climat, qui sont véritablement essentiels, d'impact sur la biodiversité, qui est variable selon les espèces, de longévité, de développement. On a vu que plus un arbre était développé, plus sa surface foliaire pouvait capter des polluants, de résistance aux maladies. Il y a des facteurs subjectifs d'esthétique, en plus des facteurs liés à la qualité de l'air, que ce soit en plus ou en moins. Et on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas d'espèce miracle, que toutes les espèces ont des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Par exemple, le chêne pédonculé, il est très intéressant, c'est une des espèces qui s'accompagne d'un cortège écologique la plus importante en France, qui a une longévité très intéressante pour, en termes de patrimoine, un développement aussi très important, mais qui pose des problèmes d'allergie, qui pose des problèmes sur la qualité de l'air et qui, en plus, n'est pas adapté au changement climatique dans nos villes. Même le chêne pédonculé, d'ici quelques décennies, sera complètement inadapté. Alors, le bouleau, on l'a vu, il pose aussi des problèmes d'adaptation au climat. C'est ça qui fait qu'on va en avoir de moins en moins parce que à chaque canicule estivale, il y a un grand nombre qui disparaît. Mais là, on voit qu'il y a des choses qui sont parfois un peu contradictoires ou antagonistes. C'est que, par exemple, on l'a vu, effectivement, le bouleau est un des arbres qui, en termes d'allergie, est le plus pénalisant. Il y a une étude au Japon qui a montré que c'était un des arbres qui avait le facteur de dépollution de l'air qui était le plus important. Donc, effectivement, on gagne sur certains tableaux, on perd sur d'autres, et c'est relativement compliqué. Le frêne est une espèce intéressante, mais il y a une pathologie qui se développe dessus, et c'est une espèce qui risque de disparaître. Alors, le mycocoulier, il semble assez intéressant parce qu'il a beaucoup d'aspects positifs, mais il ne faudrait pas que ce soit le champion et qu'on refasse des monocultures avec une espèce qui risquerait d'avoir des problèmes plus tard. Et dans le travail de diversification qu'on fait, je vous ai mis deux espèces qu'on peut envisager, mais il y en a beaucoup d'autres, il se trouve qu'on manque beaucoup de données sur beaucoup de ces critères pour faire des choix qui soient fondés. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Il faut en retenir que dans cette complexité, on est obligé de définir et d'hierarchiser des critères de choix des essences. Jusqu'à présent, le seul critère qui était utilisé, c'était essentiellement le critère esthétique, c'est-à-dire la silhouette de l'arbre, son feuillage, ses colorations à l'automne, ses floraisons. Mais avant de choisir effectivement ces critères esthétiques, il faut intégrer beaucoup d'autres choses. Alors, les premiers critères à prendre en compte, c'est les critères d'adaptation aux contraintes du site, pour que la plantation soit viable. Ensuite, on a les critères de croissance et de volumétrie, l'adaptation à l'espace où il est planté. Si on plante dans un petit jardin ou sur une grande place, effectivement, on n'est pas dans les mêmes conditions. Il faut qu'on intègre, effectivement, et ça c'est une nouveauté, des critères liés à la qualité de l'air, notamment ces questions d'allergie, de facteurs de dépollution, de production de composés organiques volatiles. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a passé ce crible, intégrer les questions d'esthétique. Alors, ça veut dire effectivement que une des solutions, c'est d'essayer le plus d'espèces possible. On a depuis 25 ans sur Lyon fait un travail très important de développement des arbres sur les espaces publics, puisqu'on est passé de 45 000 à plus de 100 000 arbres sur les espaces publics de la métropole en 25 ans. Et ça s'est accompagné d'une augmentation très importante de la diversité, puisqu'on est passé de 150 espèces présentes en 94 à près de 300 aujourd'hui, espèces et variétés d'arbres, ce qui rend effectivement la pédagogie un petit peu difficile. Et on voit que, vous voyez, sur cette période de 25 ans, on a réussi à réduire le taux de platane, qui était à 52% en 94, il n'est plus qu'à 22% aujourd'hui. Et pour nous, c'est une des clés de la résilience de ce patrimoine et de la limitation des disservices, c'est d'aller vers le maximum de diversité. Et dans notre charte de l'arbre, on en a fait un objectif, c'est-à-dire qu'à terme, aucune espèce ne dépasse 10% pour éviter, si une maladie épidémique se développe, de tout perdre, et pour éviter effectivement les problèmes de disservice liés à ces espèces. Alors, on voit par exemple que le mycocoulier, qui est un champion, il est déjà à 7% par espèce, ça veut dire qu'il ne nous reste plus que potentiellement 3%, donc 3000 arbres en gros sur 100 000 de possibilités de planter cette espèce si on veut respecter cette règle. Donc il faut en trouver d'autres qui sont adaptées. Vous voyez que les choses ne sont pas si simples. Alors un autre élément aussi qui est important, c'est de quoi on parle en termes d'échelle. Le Grand Lyon s'occupe de 100 000 arbres d'alignement, 50 000 arbres dans deux grands parcs de la métropole. Donc 150 000 arbres, qui sont plutôt effectivement dans les zones urbanisées. Mais on a travaillé sur le concept de forêt urbaine, c'est-à-dire qu'en ville, tous les arbres qui soient situés dans des jardins privés, des jardins publics, des espaces naturels, des cours d'école, etc., ils forment comme une forêt diffuse qui participe à la qualité de l'environnement, au service comme au disservice. Et la mesure qu'on a faite de cette, ce qu'on appelle une canopée, ça représente 27% du territoire en termes de superficie. Et on estime que ça correspond à 2 à 3 millions d'arbres à peu près qui sont sur le territoire de la métropole. Et vous voyez que finalement, les 150 000 arbres de la métropole, il y en a à peu près 150 000 qui sont des arbres publics des autres communes de la métropole, ça fait à peu près 300 000 arbres publics, ça veut dire que c'est 10% du total. Et donc l'enjeu, tant en ce qui concerne la préservation pour garder un patrimoine, qu'en ce qui concerne effectivement les choix d'essence, ça ne porte pas uniquement sur l'action publique, ça doit porter aussi sur l'action qui se passe sur le domaine privé. Et du coup, c'est pour ça qu'on a développé ce qu'on a baptisé le plan Canopée, qui est une hybridation de notre charte de l'arbre et du plan climat de la métropole, pour avoir une réflexion qui porte sur l'ensemble de cette forêt urbaine. Ce qui est assez intéressant aussi à noter, c'est que cette carte de densité, effectivement, elle peut être croisée avec d'autres cartes, notamment la carte des îlots de chaleur. Les zones d'accumulation de chaleur sont dans les zones les moins boisées. Et les problèmes sanitaires, puisqu'il y a eu des études sur les problèmes de santé publique, on a exactement le même découpage et la même fracture entre l'Ouest et l'Est qui apparaît. Pour finir en termes de prospective, on a parlé de la diversité au niveau d'un patrimoine, mais il faut réfléchir aussi à la diversité des formes. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'études sur la pollution qui ont montré que la forme classique est utilisée en ville, qui est l'alignement régulier. Alors on arrive à faire des ombrages intéressants en termes de rafraîchissement des rues, mais ces formes très régulières de canopées continues ont aussi une incidence sur la pollution, puisque ça a tendance à garder la pollution produite par les voitures sous la canopée et du coup au niveau des piétons et des cyclistes. Alors cette forme régulière aussi de plantation, elle est à l'origine aussi de gros problèmes qu'on appelle les problèmes de monoculture, c'est-à-dire quand il y a une maladie qui se développe sur une espèce, comme les arbres sont souvent des clones, c'est toutes les plantations qui risquent de disparaître. C'est ce qui arrive actuellement sur le canal du Midi. On a des dizaines de milliers de platanes qui disparaissent. Ça a été le cas dans les années 70 avec l'orme. Il y a certaines villes américaines qui ont vu disparaître 70% de leurs arbres avec des impacts santé énormes parce qu'ils avaient planté qu'une seule espèce. Et donc la monoculture, c'est véritablement quelque chose qui est à proscrire, et il faut effectivement trouver d'autres solutions. Alors ces autres solutions, effectivement, c'est ça porte à la fois sur la forme du bâti, ça porte sur la forme et la diversification des plantations, c'est-à-dire comment on arrive à éviter cet effet de couvercle en ayant des zones ombragées et des zones où l'air pollué peut s'échapper, comment on arrive à avoir des essences différentes pour minimiser ces problèmes d'allergie, pour minimiser ces problèmes de disservice, pour minimiser les risques de disparition d'une espèce à cause d'une maladie ou d'une inadaptation au changement climatique. Donc c'est vers cette direction qu'il faudrait aller dans les projets. Alors la difficulté, c'est qu'en France, on a une tradition des plantations régulières monospécifiques qui a plus de 4 siècles, hein, puisque Catherine de Médicis déjà a introduit ça d'Italie pour le jardin des Tuileries à Paris, et que ce soit au XVIIe, au XVIIIe siècle, avec les jardins de Le Nôtre, puis avec les extensions urbaines, toutes les plantations d'alignement. Au XIXe siècle, bien sûr, la période haussmannienne a systématisé ce modèle, basé sur des plantations monospécifiques très peu diversifiées et régulières, qui ont beaucoup d'intérêt d'un point de vue esthétique et d'un point de vue aussi patrimonial, parce qu'effectivement, ça crée des identités de territoire. Et ces formes ont été reprises, un peu banalisées au XXe siècle, puisqu'on a continué, que ce soit dans des cités jardins ou dans des projets récents, à travailler justement sur cette réflexion, sur la conservation effectivement de cette tradition de la plantation régulière. Effectivement, cette forme de plantation est complètement inadaptée, que ce soit pour les questions de qualité de l'air, de pollution, de production de COV, etc., par rapport à la maximisation des services et à la résilience de ce patrimoine. On essaye de travailler aujourd'hui sur inciter les concepteurs à travailler sur nouvelles formes qui diversifient à la fois les essences et les formes pour justement avoir les services en minimisant les disservices, mais on s'aperçoit qu'il y a énormément de blocages culturels, et je terminerai là-dessus. En fait, on s'aperçoit que il y a une autocensure qui existe. Je ne parle pas ne serait-ce que des sites classés historiques ou patrimoniaux, sur lesquels effectivement les architectes des bâtiments de France ont beaucoup de mal à entendre effectivement qu'il faille faire différemment. Mais même quand on crée de nouveaux quartiers, les architectes, les urbanistes, les paysagistes ont beaucoup de mal à se projeter sur de nouvelles formes urbaines, parce qu'on a cette tradition qui est tellement ancrée qu'elle rend difficile d'envisager d'autres formes. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire sur l'acceptation effectivement du changement et l'invention effectivement d'une nouvelle forme urbaine qui réconcilie cette nature diversifiée avec notre culture urbaine.
Le rendez-vous de l'actu.